Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carnet de région, un magazine réalisé cette semaine par Delta FM Terre de Camargue. Au sommaire de ce carnet de région, Haribo Uzès, laboratoire du projet de loi El Khomri, un sujet radio escapade. À l'Odev, la 8e édition du trail des terrasses du Lodévois, un reportage signé Radio Lodev. Et puis Nestlé Water qui veut se séparer de l'usine d'eau minérale de Quézac à Florac, un sujet signé Radio Bartas. La direction du fabricant de bonbons Haribo France veut imposer un plan de restructuration pour ses usines de Marseille et d'Uzès dans le Gard. L'unité de production de Guimauve d'Uzès va être délocalisée en Belgique. Un plan de départ volontaire prévoit le non-remplacement de plusieurs dizaines de postes et la direction veut imposer l'annualisation de la durée du travail pour faire varier la présence des ouvriers dans l'usine de 0 à 44 heures par semaine. La CGT dénonce des mesures qui seraient directement applicables si la loi El Khomri entrait en vigueur. Guillaume Brandt, délégué CGT de l'usine d'Uzès.
En fait, on nous a mis en place un plan de compétitivité comme dans beaucoup d'entreprises. Hein. Ils ont eu chez Conti, chez Goodyear, enfin, le 0,44, travailler le samedi après-midi, matin, en faisant des 42 heures, 47 heures, 48 heures.
Donc par semaine, hein, là, ce que vous dites. Entendu, ouais.
Ensuite, en fait, ils nous ont mis un chantage en nous demandant de la flexibilité pour avoir de la compétitivité. Et avec 110 personnes supprimées sur les deux sites, Uzès et Marseille, avec un plan de départ volontaire à la retraite, mais qui apparemment concernerait que 20 personnes, quand on demande comment ils vont les trouver les autres personnes, ils nous disent qu'ils vont les trouver. C'est la seule réponse qu'ils nous donnent. L'actionnaire veut mettre de l'argent dans des machines pour automatiser les systèmes et supprimer des gens. Il y a deux syndicats qui sont signataires de ce plan, qui sont Force Ouvrière et CGC. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la CGT qui est contre, et surtout, tous les ouvriers sont contre ce plan de compétitivité. Pour l'instant, on est en stand-by, mais s'il y avait la loi El Khomri, eh bien, les 110 personnes ne se poseraient plus la question de comment ils les trouveraient.
Le syndicaliste affirme que les ouvriers d'Haribo ont déjà fait des efforts pour améliorer la compétitivité au détriment de la dégradation de leurs conditions de travail.
Ça fait deux années qu'on stabilise à 52 000 tonnes de fabrication sur deux sites. Sauf qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de cadres et de moins en moins d'ouvriers. Donc on travaille en 3-8. On va travailler les samedis et beaucoup de gens en ce moment font des heures supplémentaires. Donc on est à 42, parfois 47 heures. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est nous mettre en fait de l'annualisation pour plus payer les heures supplémentaires. La loi El Khomri dit 25%, de 25 à 10%, nous c'est de 25 à 0. Et quand vous demandez à des bonhommes de faire 6 jours de matin en faisant des 47 heures et en se levant à 2h ou 3h du matin, ça devient très très fatigant.
Et j'ai pas très bien compris ce que cherche la direction avec ces horaires modulables où vous pouvez travailler plus de 40 heures une semaine et presque rien la semaine suivante.
C'est exactement ça, ils veulent le faire à 0,44 heures, donc en fait c'est le légal, on n'a pas le droit de faire plus de 44 heures sur 12 semaines. Donc aujourd'hui, ce que veut, c'est de la flexibilité, nous faire travailler quand il le désire et nous mettre à la maison, quelquefois. Alors, il peut nous faire travailler 3 jours, des fois 0 et des fois 6 jours.
Et l'idée, c'est de s'adapter à la demande de leurs clients. C'est quoi ? Comment ils justifient ça, en fait ?
C'est de gérer les stocks et les flux. Au lieu d'avoir un stock à gérer, par exemple, pour Halloween, où ça se fait 3 mois avant, eh bien, ils voudraient le faire un mois avant.
En vous faisant bosser beaucoup plus quoi à ce moment-là.
Voilà, et surtout en supprimant des postes. Parce qu'en faisant travailler les gens 48 heures par semaine, ceux qui seront du matin travailleront 48 heures et ceux qui seront de nuit travailleront 44 heures. Donc forcément, à un moment donné, on va supprimer du personnel puisqu'on travaillera beaucoup plus. Et en fin d'année, on nous remettra à zéro parce qu'on a une baisse d'activité souvent novembre-décembre parce que c'est fête de Noël. Et c'est là où on risque d'être à zéro.
Des efforts supplémentaires demandés aux ouvriers alors même que les volumes de production et de vente d'Haribo progressent. Le leader européen de la confiserie affiche un chiffre d'affaires en France en constante augmentation, évalué en 2014 à 230 millions d'euros. Guillaume Brandt.
Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'Haribo augmente ses parts de bénéfices chaque année. C'est énorme, les parts de marché sont en augmentation. Le tonnage vendu en France est en augmentation. Tout est beau chez Haribo, en somme, tout est ouvert. Et aujourd'hui, ils nous mettent en concurrence avec le groupe. Donc ils nous demandent de mettre une cible à horizon 2020 de tonnage pour rentrer dans la cible de l'Europe, des actionnaires qui nous demandent. Et si on n'accepte pas ce plan de compétitivité, Mais c'est simplement, ils nous disent qu'en 2017, la production baissera, en 2018, 2019, jusqu'à supprimer 150 emplois.
Parce que votre site est jugé moins productif que les autres, c'est ça?
Non, ils disent qu'on a un eurotonne plus cher que les autres. Mais aujourd'hui, c'est invérifiable. Ils disent que le salarié français coûte cher, les charges, voilà, toujours la même musique. Hein. Et donc, ils veulent que ce soit compétitif. Sauf qu'en Europe, nous sommes le troisième qui rapporte le plus de bénéfices.
Des propos recueillis par Pierre Isnard Dupuis de Radio Escapade.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Ce week-end à l'Audev se déroule la 8e édition du Trail des terrasses du Lodévois organisé par le Spiridon Club Nature Lodévois. Christophe Gumiel, un des organisateurs de cet événement, revient sur cette course qui est devenue reconnue dans le milieu sportif depuis toutes ses éditions.
On rassemble près de 700 coureurs, oui. C'est un événement national. Bon, après international, oui, il y a des Belges qui viennent, des Espagnols, mais bon, c'est surtout un événement national.
C'est un trail qui est quand même assez réputé.
Ouais, il commence à l'être, il est spécifique, hein, il est technique et sauvage, donc c'est pas un trail, comme on dit, où il y a du tout venant, quoi. Hein.
Ouais.
Par rapport aux 12 kilomètres, qui est beaucoup plus accessible, un sportif, un footballeur, un handballeur, en discussion de troisième mi-temps, il peut se lancer le défi de faire le 12, le 27 et 47, il faut être un peu plus affûté et entraîné.
Et ouais, forcément, vu le territoire, il y a beaucoup de relief et donc beaucoup de dénivelé positif.
Oui, voilà, donc au niveau des kilométrages, là, suite aux dernières modifications, on serait sur un 25 km avec 1500 de dénivelé, alors qu'on était jusqu'à présent sur un 27 avec 1100, donc bon, ça se vaut, hein, parce qu'on dit en trail que 100 mètres de dénivelé équivaut à 1 km de plat,
ouais,
pour donner un peu la difficulté. Et ensuite, le 47, il fait 45 et au lieu d'avoir 2200 mètres dénivelé, je crois qu'il en a 2400.
Le dimanche est donc consacré à des courses de 27 km et de 47 km depuis le village de Soubesse. Le samedi après-midi, c'est le Handy Trail avec déjà plus de 12 joëlettes inscrites. Une course renouvelée après le départ de l'année dernière qui avait mobilisé beaucoup de monde.
Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un projet à l'image du Spiridon. Hein. On n'a pas de subvention spécifique, on loue des joëlettes, on va en chercher. On a beaucoup d'associations qui nous en prêtent, des particuliers qui en ont ou des structures. Donc, ouais, c'est un beau projet mené de front par Nicolas Roch et Julien Guerrera d'Escapeo, la société d'Escapeo. Donc, oui, c'est une société.
Basé à Saint-Jean-de-la-Blaquière.
Ouais, Saint-Jean-de-la-Blaquière, c'est une société, c'est une entreprise, mais il le fait vraiment dans un esprit vraiment de bénévole, parce que les heures qu'il y passe, aller vérifier le parcours, toute cette logistique, prendre en charge les associations qui viennent et tout, voilà. Après, c'est très compliqué à mettre en constitution les équipes.
Oui, parce qu'il faut trouver des équipes qui soient prêtes à tirer les joëlettes.
Oui, voilà. Donc, alors, il y a des structures qui arrivent, c'est très compliqué parce qu'il y en a qui arrivent avec des équipages complets. Donc équipage complet, c'est le participant qui a un handicap et son équipage de coureurs à côté. Après, il y en a qui arrivent, il y a des équipages et après, il y a des participants à mettre sur les joëlettes. Et il y en a qui arrivent avec des joëlettes, il y en a qui arrivent sans joëlettes, tout ça. Donc en gros, on a des structures, des maisons d'accueil spécialisées qui viennent. Après, on a, on a beaucoup les pompiers de l'Odev qui font une équipe. On a les pompiers de Mont-Blanc et Béziers qui en font une. Après, on a deux équipes des pompiers de Béziers qui viennent et une équipe d'un pompier de Béziers mais qui s'appelle Rescue Océan qui travaille dans l'environnement qui est nationalement, même internationalement connu maintenant, qui viennent faire des équipes. Et après, on a une équipe des bénévoles et partenaires du trail. Donc, on rassemble des bénévoles à nous, un peu sportifs, parce qu'on a enlevé nos sportifs de la manifestation pour les avoir en main d'œuvre, et des partenaires.
Oui.
Donc ils font une équipe et de là on arrive à monter 12 ou 15 équipes. C'est un gros gros projet et à côté de ça on fait de la marche adaptée, de l'handi marchand, mais c'est de la marche adaptée, voilà. Bon, l'an dernier les coureurs joëlettes le plus ils ont fait 14 km. Cette année il y a deux variantes, c'est 6 et 11,8, 11,5 avec un peu plus de pistes DFCI. Pour un peu soulager. Après, on est obligé de passer dans des endroits techniques. Donc là, on va renforcer par des bénévoles un peu physiques pour aider à soulever les joëlettes. Donc, on va essayer de trouver des bras costauds.
À titre de comparaison, 15 joëlettes ont participé en 2015 au championnat du monde joëlettes. Plus de renseignements sur le trail www.lesterrassesdulodévois.com. Un reportage signé Damien Satt, Radio Lodève.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Une affaire fait grand bruit dans le bassin de vie et d'emploi de Florac en Lozère, la décision de Nestlé Water de se débarrasser de l'usine d'eau minérale de Quézac. Une réunion de soutien aux salariés a eu lieu mercredi 13 avril en mairie d'Isapagnac à l'appel de nombreux élus locaux. Écoutons tout d'abord Flore Théron, maire de Quézac.
L'important dans cette affaire-là, c'est bien évidemment le personnel. Et je pense que par rapport aux positions qui pourront être prises, l'important c'est de se référer à eux car c'est eux qui sont au cœur de l'entreprise et c'est eux qui ont les informations. Je vous rappelle qu'il y a un an, dans un ciel serein, un coup de tonnerre a été ressenti par tout le vallon, à savoir que Nestlé, après 20 ans d'exploitation d'une entreprise apparemment rentable, pour des raisons qui nous échappent un peu, qui n'ont pas été très claires, Nestlé Waters décide de vendre cette entreprise.
Une négociation est en cours entre Nestlé et un repreneur potentiel. Il s'agit de M. Lacaze, président de la Société des eaux du Mont Roucous. Flore Théron nous donne son avis sur cette reprise.
Ce qu'on a entendu quand même, c'est que M. Lacaze, l'eau de Quézac coule en lui, c'est très très bien, on est très très content. A-t-il un projet financier viable ? A-t-il un projet commercial viable ? A-t-il un projet industriel viable ? Et là, les experts qui sont mandatés par le comité d'établissement pourront donner réponse à ces différentes questions. Sur le plan social, là, on peut quand même être quand même effaré d'entendre, au-delà du fait que les effectifs doivent diminuer, il y a quand même aussi à la clé une baisse de salaire de 30 à 40%. Donc ça, c'est quand même un problème majeur sur lequel, effectivement, on ne peut qu'être à la fois atterré et vraiment très en colère.
Nous écoutons maintenant les réactions de Sophie Pantel, présidente du conseiller départemental, et Pierre Morel, à l'huissier, député de Lozère.
Pour le département, l'usine de Quézac est évidemment un fleuron hein, en termes de savoir-faire. Problématique de Quézac, ce n'est pas la production, parce qu'on a une usine qui tourne, des savoir-faire, des ouvriers et des salariés qui connaissent parfaitement leur travail. L'enjeu, il est sur la distribution et sur la promotion de cette bouteille d'eau de Quézac. Évidemment qu'on est conscient de l'importance de cette usine, alors pour le vallon d'Ispagnac-Quézac, mais au-delà, pour l'ensemble du département. On a quand même très peu d'industrie sur ce département et sur le sud du département en particulier. On mesure aussi pleinement ce que ça représente en termes d'emploi direct, mais aussi en termes d'emploi indirect. Ça sera très compliqué de pouvoir faire changer Nestlé sur sa décision de vendre l'usine. Parce que voilà, y a des choix économiques et on voit bien de toute manière l'impact du libéralisme, ce que ça donne, y compris sur des usines qui font des bénéfices. Je ferme la parenthèse, mais quand même, on en a un bel exemple ici. Après, je crois que nous, notre rôle, c'est évidemment de suivre et de peser sur le devenir de chacun des salariés. Le niveau de notre action à vos côtés, ça doit être celui du soutien aux côtés des salariés de l'usine, qu'on puisse conserver le maximum d'emplois sur ce bassin au regard de tout ce que ça représente.
On est tous là, parce qu'on est tous convaincus qu'il faut faire quelque chose. Là, on est face à un groupe et on est face à des salariés qui veulent simplement garder leur boulot. Donc, à un moment donné, il faut monter au créneau. Ce type de réunion, il faut le faire aussi avec le représentant de l'État, y compris par interpellation directe au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas rester taisant. On est là sur de l'économie et sur de l'emploi. Il faut s'assurer de la pérennité ou du sérieux du repreneur. Et puis, il faut voir quand même avec le groupe Nestlé qu'est-ce qu'il est capable d'apporter dans l'accompagnement. C'est une chose de décider d'une cession, c'est une autre chose de l'accompagner, cette cession. Et avoir un certain nombre de réponses, parce qu'on ne peut pas passer de 53 salariés à 30 et dire à Nestlé, on est content. Non, on n'est pas content.
Enfin, pour terminer, l'avis d'un des représentants CGT de l'usine.
Nous, bon, on est content qu'il y ait tout ce monde qui se mobilise autour de l'usine, bien sûr. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut actuellement, déjà, c'est regarder la pérennité du site avec l'investissement industriel et le projet commercial. De ce qu'on sait aujourd'hui, et on ne veut pas trop s'avancer sur l'étude qui est menée par nos experts, le projet industriel ne tient pas la route avec les 300 000 euros qui sont proposés. Et deuxièmement, le projet commercial qu'il avait, qui semblait séduisant au départ, aujourd'hui, il a 15 commerciaux, alors qu'on essaie en a 170. Donc pour le réseau de distribution, on se pose des questions aussi. Le volet social, bien sûr, il viendra, mais pour nous, c'est une des priorités, bien sûr, mais ce n'est pas la priorité. On ne discutera pas de salaire tant qu'on n'aura pas obtenu une pérennité quelconque du site.
Les résultats de l'expertise demandée par les syndicats devraient être connus le 22 avril prochain. Une affaire à suivre, donc. Un reportage Radio Bartas. Et c'est déjà la fin de ce carnet de région, un magazine préparé par les radios associatives et non commerciales du Languedoc Roussillon, sous la rédaction en chef ce mois-ci de Delta FM. À la semaine prochaine pour un nouveau magazine.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc Roussillon.